France Inter.
Bonjour à tous. Des quartiers populaires aux immeubles bourgeois, c'est le premier moyen de transport en France, l'ascenseur. 100 millions de trajets en moyenne chaque jour, mais avec aussi de nombreux incidents et parfois même des morts. Plus d'1,5 million d'ascenseurs tombent en panne chaque année. Bonjour Anaëlle Verzo.
Bonjour.
Alors vous avez enquêté sur les raisons de ces défaillances et sur les entreprises qui tiennent ce marché très juteux.
Secret d'info. Benoît Colomba sur France Inter.
Dans cette résidence de 6 étages, la colère s'exprime aux fenêtres, avec ses messages, des cris de détresse. Depuis 15 jours, l'ascenseur est en panne. Les habitants âgés des étages supérieurs vivent comme assignés à résidence. Habitante du 4e étage, cette retraitée gênée par une sciatique et des lumbagos chroniques n'est sortie de chez elle qu'une seule fois en 15 jours.
Voilà extrait d'un reportage diffusé sur M6 le 6 septembre 2023, le quotidien d'un immeuble d'Échirolles en Isère privé d'ascenseur et qui reflète un problème récurrent qui se résume, je le disais, dans ce chiffre spectaculaire, plus d'1,5 million de pannes par an avec des risques d'accidents et des délais de réparation parfois très longs. Alors à Secret d'Info, on a voulu comprendre l'origine de cette anomalie, pourquoi autant d'ascenseurs en panne. Et pour bien comprendre, Anaëlle Verzo, il faut d'abord dire que ce marché, il est dominé par quelques entreprises.
Oui, 4 multinationales, l'américain Otis, le suisse Schindler, le finlandais Kone et TKE, une société allemande. En France, le chiffre d'affaires de ces 4 entreprises pèse 3 milliards d'euros, 60 milliards d'euros dans le monde. Et selon une enquête récente du Crédit Suisse, ce marché va continuer à se développer et pèsera 100 milliards d'euros en 2030.
Et en France, alors, combien y a-t-il d'ascenseurs ?
Officiellement, 645 000, dont 60% dans le logement. Le reste, ce sont des bâtiments administratifs ou commerciaux.
Et avec donc des pannes régulières, 3 en moyenne par an par ascenseur. Et votre enquête, Anaëlle, elle débute à Montreuil.
C'était en mars dernier. Je me suis rendue dans le quartier du Clos français, dans une tour de 16 étages, où depuis 4 mois et demi, les 2 ascenseurs sont en panne. Et parmi les habitants que j'ai rencontrés, il y a Liliane. Elle préside l'Amicale des locataires.
Et là, qu'on ne vienne pas nous dire que c'est des US, c'est des vieux. Non, ils sont neufs.
Ils ont 6 ans.
2019.
Ascenseur hors circuit.
Non, moins 1. Non, rappuie sur le bouton moins 1.
Ouais, je l'ai fait.
Non, il faut... Attends, ouais, mais...
Les ascenseuristes, ils viennent ici bricoler, rafistoler les choses. Ils ne réparent pas.
Non. Les ambulanciers qui arrivent avec un monsieur. Bonjour, monsieur. Ah non, mais c'est... Qui revient de l'hôpital et qui a un pied qui a été amputé. Il est au troisième étage. Donc.
Ça fait 4 étages, hein, parce qu'il y a un étage technique.
Donc là, ça veut dire que vous allez devoir le porter. Ce n'était pas prévu. Hein.
Et vous êtes ensuite montée au 16e étage de cette tour.
Oui, chez Nadia. Elle est assistante maternelle depuis 21 ans. Et forcément, les ascenseurs en panne, ça la pénalise dans son travail, avec des parents qui doivent monter tous les étages avec leur bébé dans les bras.
Moi, j'ai un contrat, là, normalement, mi-février. Je n'osais même pas appeler la maman. Hein. On avait signé depuis le mois d'août pour commencer février. J'ai dit, je vais attendre. Je ne peux pas l'appeler et lui dire, ouais, on n'a pas d'ascenseur. Là, c'est un nourrisson, on va monter 16 étages. Et du coup, bah, elle m'a appelé pour savoir comment c'est l'adaptation. Et puis là, je lui ai dit, excusez-nous, mais depuis le 1er janvier, on n'a pas d'ascenseur. Heureusement que c'est quelqu'un un peu de conciliant comme les parents que j'ai en accueil. Hein. Mais d'autres parents, ils lâchent. Donc vous vous retrouvez le bec dans l'eau après. Vous travaillez comment? Vous financez comment pour payer le loyer?
Et Nadia s'est déjà retrouvée coincée dans l'ascenseur pendant 3 heures. Et ses pannes, pour elle aussi, c'est un calvaire au quotidien.
Parce que moi, au niveau pulmonaire, ça ne suit pas. Hein. Bon, c'est pour ça que je m'arrête tous les 2 étages. Hein. Il me faudrait quelqu'un qui me pousse à l'arrière, vraiment. Hein. Des fois, je suis désespérée rien que de savoir que je vais remonter. Une autre dame de 83 ans, pareil, au 7e. Moi, j'ai une machine, un appareil à apnée le soir. Moi, je me dis, il arrive quoi que ce soit. Vous pensez que le monsieur, il va venir me livrer ma machine, monter 16 étages? Déjà, pour les courses, il y a une collègue à moi qui a demandé, il livre qu'au 5e. Depuis le départ où ils l'ont installé, il y a eu des problèmes de panne d'ascenseur. Moi, j'ai relevé là, des mails que j'ai envoyés depuis 2021. C'est pas nouveau. Hein.
Et des exemples de panne comme ça, il y en a partout en France.
Oui, dans des logements sociaux comme privés, des ascenseurs peuvent rester en panne pendant plusieurs mois, avec des pics dans les grandes agglomérations, comme en Île-de-France ou à Marseille. Et parmi les parlementaires qui travaillent actuellement sur le sujet, il y a la députée Danielle Simonet, du groupe Écologiste et Social.
Au niveau du Conseil de Paris, il y avait eu une mission d'information et d'évaluation sur la question des ascenseurs en 2010. Et il y avait un rapport qui montrait que le taux de panne en France était un des plus élevés d'Europe. 9 pannes par an par ascenseur à Paris, 7 en Île-de-France, alors qu'il y en a une à deux par an par ascenseur à Berlin, par exemple.
Et en plus de ces pannes récurrentes, il y a parfois aussi des dysfonctionnements qui peuvent avoir des conséquences très graves.
Oui, avec des accidents mortels, comme ce qui s'est passé en mai 2002 dans une cité HLM en banlieue de Strasbourg. Bilal, un enfant de 4 ans, monte dans l'ascenseur, sauf que la cabine se trouve en fait au sous-sol, et face à lui, c'est le vide. Il meurt en tombant de 6 étages. 3 ans plus tard, la société de maintenance est poursuivie devant les tribunaux. Extrait du journal de 20h sur France 2, le 5 septembre 2005.
Personne ici n'a oublié le petit Bilal. À l'entrée de l'immeuble, une plaque rappelle l'accident qui a causé la mort de cet enfant de 4 ans. Un nouvel ascenseur a été installé l'année dernière, flambant neuf, mais pas vraiment rassurant pour les locataires.
On fait quand même attention avec l'ascenseur, je veux dire, moi je le prends, mais mes enfants ne le prennent pas.
Au moment de l'accident, en mai 2002, l'ascenseur était vétuste et mal entretenu. En l'absence de cabine, cette porte aurait dû rester bloquée. Or Bilal a pu l'ouvrir, provoquant une chute du 5e étage.
La société qui était chargée de la maintenance est condamnée à 100 000 euros pour homicide involontaire. Et le technicien chargé de la maintenance est lui aussi condamné à 12 mois de prison avec sursis.
Et autre exemple dramatique, à Argenteuil.
Oui, le 8 juin 2018, Ismaël, 4 ans, meurt écrasé par un ascenseur dans un centre commercial sous les yeux de sa mère, qui aujourd'hui encore est sous le choc. Attention, ces propos sont durs à entendre.
L'ascenseur est tombé et a complètement lâché. Je me suis retrouvée sur les genoux, ma tête qui a frappé le plafond de l'ascenseur. J'entends des cris au-dessus de moi, donc j'ai le réflexe de lever ma tête. Et quand je regarde au-dessus, je vois qu'il y a les jambes de mon fils suspendues en haut. Il était coincé entre le dernier étage de là où on était arrivé et le plafond de l'ascenseur. Je commence à me rendre compte que ça ne va pas du tout, qu'Ismaël commence à avoir des petites taches sur ses jambes, des petites taches bleues, donc je commence à comprendre qu'il est en train de manquer d'oxygène. On supplie, limite l'ascenseur, de lâcher notre fils, on tape partout. Donc à ce moment-là, après, les pompiers arrivent. Du coup, le médecin du SAMU, il est venu vers moi et s'approcher. Et il m'a annoncé que, ça y est, Ismaël, il était décédé.
C'est effectivement terrible. Et l'enquête, elle en est où ?
Bien, 7 ans après le drame, un procès aura bien lieu, mais on ignore encore la date. Et en fait, au début des investigations, il s'est passé quelque chose d'anormal sur les lieux de l'accident. Comme le veut la procédure, le périmètre est interdit au public. La police pose alors ce qu'on appelle des scellés. Mais voilà ce qui s'est passé. Écoutez Maître Anna Branelec, elle défend la famille d'Ismaël.
2 jours plus tard, il a été constaté que les scellés avaient été brisés, c'est-à-dire que un des rubans qui permettait d'interdire l'accès sur l'ascenseur qui était en cause avait été coupé ou en tout cas, il n'était plus en place. À l'époque, le parquet de Pontoise avait décidé de demander à ce que des investigations soient élargies à ce bris de scellés. Et il y a donc eu une enquête qui a été faite là-dessus. Il y a eu un non-lieu à la fin de l'instruction s'agissant de ce bris de scellé parce qu'il n'a pas été possible d'identifier précisément qui est allé sur place modifier le scellé ou en tout cas briser le scellé, ce qui est une interdiction évidemment fondamentale.
Malgré ce dysfonctionnement, 2 sociétés d'ascenseurs ont finalement été mises en examen. Un rapport d'experts a conclu qu'il y a eu des manquements de la part de ces 2 entreprises.
Et donc souvent ces procédures sont longues et on l'imagine éprouvantes pour les familles. Et ça, on le voit aussi dans une autre affaire qui a duré 10 ans.
Et qui est allée jusqu'en cassation. Les faits se sont déroulés le 10 octobre 2015 à Mantes-la-Jolie. Un enfant de 7 ans, Otman, prend l'ascenseur de son immeuble pour retrouver son grand frère à la boulangerie. Mais la roue de sa trottinette se coince dans la porte de l'ascenseur qui aurait normalement dû s'immobiliser. Mais l'ascenseur est reparti et le jeune garçon a été tué. En janvier dernier, après 9 ans de procédure, la cour d'appel de Versailles a condamné l'entreprise Otis pour homicide involontaire à une amende de 60 000 euros. Et selon l'avocate de la famille d'Otman, Anna Branelec, le procès a été particulièrement difficile à vivre pour la famille, avec une ligne de défense de l'entreprise qui les a heurtés.
Ils sont allés avec un cynisme le plus total jusqu'à indiquer que les parents d'Otman étaient en partie responsables de la mort de leur enfant parce qu'ils l'avaient laissé prendre un ascenseur à l'âge de 7 ans. C'était très violent pour les parties civiles, je pense, d'entendre que c'est potentiellement de leur faute alors qu'ils n'ont commis aucune faute et que, évidemment, la justice a tranché et a indiqué que la responsabilité était celle d'Otis qui avait effectivement eu des défaillances dans la maintenance et dans l'entretien de cet ascenseur.
Et le fait de se retrouver en quelque sorte en position d'accusé, la mère d'Otman, Soumia Essaimi, n'arrive toujours pas à l'accepter.
Ils sont partis très très loin dans leur recherche à minimiser leur culpabilité, de dire que même Otman, il a participé à son décès. Comment on peut dire qu'un enfant, il a participé à sa mort? C'est comme leur ascenseur en fait, c'est des robots, c'est des machines, ils n'ont pas de compassion face à nous. Voilà. De dire que lui, il a participé à sa mort et que nous aussi, on a participé. Alors qu'il y avait des choses qui étaient soulevées par l'expertise, qu'il y avait vraiment des maintenances qui n'étaient pas faites. Et voilà, c'est à cause de ça que mon fils, il a perdu sa vie.
Alors nous avons contacté la société Otis. Elle se dit attristée par cet accident tragique et renouvelle ses condoléances à la famille. Et elle précise avoir proposé une transaction aux parents d'Otman qui l'ont refusée. Et au-delà de cette affaire, Otis explique, je cite, que « rien n'est plus important que la sécurité de ses employés et de ses clients ».
Et au-delà de ces affaires, dont certaines ont été médiatisées, est-ce qu'on a une idée du nombre de morts dans les ascenseurs ?
Alors, selon la Fédération des ascenseurs, il y en aurait eu 3 ces 10 dernières années. Mais selon de nombreux acteurs du secteur avec qui j'ai échangé, ces chiffres sont largement sous-évalués. Ils n'intègrent pas les personnes qui meurent après être restées bloquées pendant des heures dans un ascenseur, en faisant par exemple des crises cardiaques. Ils ne prennent pas non plus en compte la mort de techniciens chargés de la maintenance.
France Inter, Secret d'info, Benoît Colombat.
Alors essayons maintenant de comprendre les raisons de ces pannes à répétition, Annaëlle Verzo. Pourquoi la France est particulièrement concernée ?
Alors ça s'explique d'abord par la vétusté du parc des ascenseurs. 40% des ascenseurs ont plus de 25 ans et un quart plus de 40 ans. Et les remplacer coûte cher pour les copropriétaires et les bailleurs. Il faut compter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Jean-Claude Genest, le trésorier de l'association des représentants de copropriété, connaît les tarifs par cœur.
Pour un immeuble entre 4 et 6 étages, le coût d'installation ou de changer un ascenseur, c'est au minimum 80 000 euros par ascenseur. Et pour ceux qui sont plus grands, ça peut monter à 180 000, 200 000 euros. Et la valeur du contrat aujourd'hui pour 2025, seulement pour l'entretien. Il n'y a rien en dessous de 5 000 euros.
Mais donc un budget très important, mais il ne suffit pas d'avoir un bon contrat de maintenance, encore faut-il pouvoir disposer des pièces détachées.
Et ça, c'est loin d'être tout le temps le cas. Comme le reconnaît lui-même le dirigeant d'une société de maintenance, qui ne souhaite pas dévoiler publiquement son identité, et qu'on va appeler Charles. Nous avons modifié sa voix.
J'ai 4000 appareils, mais j'en ai 2000 où les pièces se font plus. On espère que ça tombe pas en panne, on prévient le client de dire que s'il ne fait pas de modernisation, ça va tomber en panne, et qu'on ne pourra pas réparer.
Autrement dit, selon ce réparateur, les pièces détachées de la moitié des ascenseurs dont il s'occupe ne sont plus fabriquées. Et si le client ne modernise pas, ne remplace pas son ascenseur, il risque de tomber en panne. Et ça peut durer longtemps, faute de pièces détachées.
Mais qui les fabrique en fait, ces pièces détachées ?
Eh bien, ce sont les principales entreprises d'ascenseurs, qui sont donc en fait à la fois les constructeurs des machines, les fabricants des pièces détachées, mais elles font aussi de la maintenance. Tout ça en réduisant les coûts au maximum. Selon le député socialiste Philippe Brun, il est le rapporteur d'une proposition de loi adoptée à l'Assemblée nationale et qui vise à lutter contre les pannes d'ascenseurs de longue durée.
Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que il y a quatre grandes sociétés qui se répartissent l'essentiel du marché. Ces quatre grandes sociétés ont une stratégie similaire, faire produire leurs pièces à l'étranger, ne pas les stocker en France, stratégie de stock zéro, afin évidemment d'augmenter leurs marges.
Et je précise qu'en France, il n'existe plus que deux usines qui fabriquent des pièces détachées. La plupart viennent de Chine, de Slovaquie, d'Allemagne, d'Espagne et d'Afrique du Nord. Et pour vous donner une idée, le groupe Schindler avait quatre usines en France il y a 30 ans et il n'en a plus aujourd'hui.
Et au-delà de ces questions fondamentales liées à l'organisation de la production, il y a un autre problème qui peut expliquer aussi les défaillances et les accidents.
Oui, c'est le manque de formation de certains techniciens, comme le constate Laurent Collin, délégué syndical CGT au sein de la société Otis.
Pour moi, on travaille en mode dégradé actuellement parce qu'on a de moins en moins de personnes qualifiées qui connaissent vraiment le métier. C'est souvent deux ou trois personnes qui portent une équipe, des personnes d'expérience et des jeunes techniciens qui travaillent mais qui n'arrivent pas à aller au bout de leur travail quoi, parce qu'elles ne sont pas qualifiées pour le faire. Alors qu'il y a 20 ans de ça en arrière, il y avait un temps d'apprentissage par compagnonnage qui était beaucoup plus formateur. C'est un peu moins de la moitié, je pense, qui ne sont pas qualifiées, quoi.
Donc ça, c'est son estimation à lui. Et que dit l'entreprise où il travaille ?
Alors, elle ne fait pas de commentaires particuliers et nous renvoie sur sa plateforme d'information. Mais selon nos informations, en interne, Otis reconnaît que la formation est un vrai problème à résoudre. Et ce manque de formation, il concerne également les plus petites entreprises. Najim Lassen est le directeur technique de la PME Kio Ascenseur dans le Val d'Oise.
Il n'y a pas réellement d'école de formation d'ascenseurs. Et c'est vraiment le gros souci qu'il y a dans notre profession. À longueur d'année, on cherche des techniciens sur plusieurs zones et il faut compter pour former un technicien qui puisse être, on va dire, opérationnel entre 9 et 12 mois.
Donc des techniciens visiblement moins bien formés et qui, eux aussi, se retrouvent exposés.
Oui, en novembre 2011, par exemple, il y a eu un mort et deux blessés graves lors d'une intervention sur un ascenseur à Paris. Ou encore, plus récemment, le 24 février dernier, toujours dans la capitale, deux ouvriers grièvement blessés qui sont aujourd'hui entre la vie et la mort.
Donc ce qu'on comprend, c'est qu'il s'agit en fait d'une profession à risque.
Oui, absolument. Et alors c'est très difficile d'avoir des chiffres exacts en la matière parce qu'on parle là d'un secteur où il y a de nombreuses filiales. Et la question se pose également pour les accidents du travail, comme l'explique Laurent Collin de la CGT chez Otis.
Il y a certains salariés qui ne se déclarent pas un accident du travail par peur de représailles. Ils s'autocensurent eux-mêmes en fait. S'il y a un accidenté dans une équipe, cet accidenté-là dégrade la cotation en fait de l'équipe entière. Si on déclare un accident du travail, ça déclasse l'équipe entière parce que l'accident a été déclaré, ce qui pousse un peu à ne pas le déclarer en fait.
Et au sein de l'entreprise Schindler, c'est la même préoccupation, partagée cette fois par le technicien Adrien Pétré, délégué syndical central CGT.
Chez Schindler, nous, sur l'année 2024, on a eu une remontée du nombre d'accidents. Alors que la courbe était décroissante depuis quelques années, alors avec une année qui avait été dramatique en 2019, puisqu'on a vu deux accidents mortels. Un collègue qui était décédé sur Paris et un autre dans les Alpes. Et à un moment où il y avait eu une vague d'accidents mortels dans le groupe au niveau mondial. Dans l'augmentation des accidents, il n'y a pas que les techniciens, parce que ça concerne aussi une partie des administratifs. En Ile-de-France, en 2024, il y a eu une alerte de la médecine du travail sur les risques psychosociaux. Il y avait un mal-être qui était remonté par une partie des salariés. C'est même arrivé à des situations dramatiques, puisqu'on a eu, dans le périmètre du groupe Schindler, on a eu en 2024 deux suicides. Un technicien à Saint-Étienne et un responsable administratif dans la filiale en Guadeloupe.
Les deux enquêtes sont en cours. L'un des deux suicides s'est produit sur le lieu de travail de la personne. Et j'ajoute qu'il y a deux mois, il y a eu un nouveau suicide d'un technicien de Schindler, également sur son lieu de travail.
Et cette pression, elle s'exerce parfois de manière très concrète.
Oui, et là-dessus, écoutez à nouveau Adrien Pétré, qui travaille chez Schindler.
Il y a une logique de chronométrage de l'activité. C'est-à-dire que la vérification d'une porte, c'est tant de minutes. La vérification des mains courantes en cabine, c'est tant de minutes. La vérification de chaque bouton palier, c'est tant de secondes. La vérification du système d'alarme, c'est tant de minutes, etc., etc. Et donc, tout ça additionné, il y a un algorithme général qui détermine pour chaque appareil la durée de la maintenance. Et donc, on nous demande, et c'est aujourd'hui une prescription qu'on a lors des réunions d'agence, régulièrement, l'employeur vient rappeler qu'il faut respecter les temps de maintenance, que si on les dépasse, c'est pas bon pour la productivité, etc., etc.
Et je précise que les techniciens travaillent également avec une application de géolocalisation qui les rend visibles de leur employeur. Et à l'autre bout de la chaîne, il y a celles et ceux qui prennent les appels des clients et les relais auprès des techniciens. C'est ce que fait Sarah chez Otis.
Quand on contacte les techniciens, on a certaines pannes à leur transmettre ou des personnes bloquées, etc. On dégage un certain stress pour eux. Ils nous font ressentir justement, par certaines réflexions, des fois leur pression. Qu'ils n'ont pas le temps, que là c'est trop, là ils ne peuvent plus gérer. À cause des secteurs d'élargissement géographique, les techniciens ont beaucoup plus de pression, de charge de travail aussi.
Et ce que vous avez aussi constaté, Anaëlle, c'est que chaque technicien a de plus en plus d'ascenseurs dont il doit s'occuper.
Oui, et ça, on l'a vu dans l'affaire du jeune Bilal, mort dans un ascenseur à Strasbourg en 2002, on l'évoquait tout à l'heure. Devant le tribunal, le technicien mis en cause a expliqué qu'il devait s'occuper de 144 ascenseurs, beaucoup trop pour lui. Et aujourd'hui, 23 ans plus tard donc, les techniciens travaillant pour les grands groupes ou leurs sous-traitants ont encore plus d'ascenseurs sous leur responsabilité, 150 en moyenne, et parfois jusqu'à 200, comme l'explique à nouveau Laurent Collin, qui travaille chez Otis.
Les techniciens salariés chez Otis ne sont pas remplacés. S'ils sont malades, s'ils sont en congé, s'ils démissionnent aussi, le temps de recouvrement d'un autre technicien qui arrive pour le remplacer, il n'y a pas de remplaçant. Il faut reprendre la tournée du collègue à côté, qui est à peu près aussi lourde. Et donc, quand on a deux tournées, on va dire, allez, à 150 appareils, à 150 ascenseurs à charge, la sienne, celle qu'on a prise à son compte, plus celle du collègue qui est malade, ça fait 300 appareils à entretenir, quoi.
Contactée sur ce point précis, la société Otis confirme qu'en cas d'absence d'un salarié, les tâches sont réparties entre les autres techniciens, tout en précisant qu'ils peuvent faire des heures supplémentaires.
Bien, alors on va en rester là pour l'instant, mais surtout, restez avec nous. Dans un instant, on va voir comment les quatre principales entreprises du secteur ont été condamnées pour s'être arrangées entre elles sur le prix des ascenseurs. Something stopped me, dead in my tracks. I was headed for disaster and then I turned back. I was wrestling with the coat hanger, can you guess who won? The universe shrugged, shrugged and moved on. It's a guess, no idea. It's a feeling, not a voice in my head. Just a feeling. And by the way, the spike island come alive. And by the way, this time I'll get it right. Oh, not a shaman or a showman ashamed I was selling the rights. Took a breather and decided not to ruin my life. I was conforming to a cosmic design. I was playing to type until I walked back to the garden of earthly delights. I was born to perform. It's a calling. I exist to do this. Shouting and pointing. And no one will ever have the last word, because it's not something you could ever say. So swivel. We'll be right back. Le grand retour de Pulp avec une petite touche de David Bowie, Spike Island, extrait du nouvel album baptisé More du groupe de Jarvis Cocker, le premier depuis 24 ans.
France Inter, Secret d'info. Benoît Colombin.
Et retour à notre enquête sur ces ascenseurs en panne un peu partout en France, avec aussi parfois des drames, des accidents mortels et des techniciens souvent sous pression. Et ce qu'il faut dire aussi, Anaëlle Verzo, c'est que ce marché des ascenseurs, il rapporte beaucoup d'argent.
Oui, et on le rappelle, ce sont quatre entreprises qui dominent très largement le marché, Otis, Schindler, Kone et TKE. En France, plus de 17 000 personnes travaillent pour l'une de ces quatre entreprises. Et elles sont donc à la fois des fabricants, des installateurs, et elles entretiennent aussi les ascenseurs via des contrats d'entretien obligatoires par abonnement. Et le fait de cumuler ces trois leviers leur donne un poids considérable. Sachant que c'est effectivement une industrie très rentable, comme le rappelle le député socialiste Philippe Brun, très engagé sur le sujet.
L'industrie ascensoriste, c'est probablement l'une des industries les plus rentables de France. Vous regardez les différentes études de marché qui sont faites, le taux de marge est autour de 15%, ce qui est gigantesque. Ce sont des cash machines. Quand vous avez un taux de rentabilité à 15%, c'est des taux de rentabilité qui sont presque ceux d'LVMH. Il est clair que les quatre ont intérêt à ce que rien ne change et que le système reste tel qu'il est, particulièrement lucratif et particulièrement rentable pour eux.
Et si on prend l'exemple de l'entreprise Schindler, ses dividendes ont été multipliés par 3 l'an dernier. Quant au chiffre d'affaires d'Otis, il a grimpé de 11% entre 2020 et 2024.
Et ce qu'il faut également préciser, Anaëlle, c'est que ces quatre sociétés qui tiennent donc le marché, elles ont également été condamnées pour avoir contourné les règles de la concurrence.
Effectivement, en février 2007, la Commission européenne les a condamnées à payer une amende de près d'€1 milliard pour « entente illicite ». Une somme record à l'époque. Écoutez le correspondant à Bruxelles, Quentin Dickinson, dans le journal de France Inter, le 21 février 2007.
Pendant près de 10 années, au tournant du siècle, les 4 plus grands fabricants d'ascenseurs et d'escalators du monde s'étaient entendus entre eux pour fausser de fond en comble le marché de leur spécialité en Allemagne et dans les 3 pays du Benelux. Au total, la Commission européenne inflige pour ce motif l'amende la plus lourde jamais fixée par elle, en l'occurrence à peu de choses près 994 millions d'euros.
De 1995 à 2004, les quatre multinationales, Otis, Schindler, Kone et le groupe allemand ThyssenKrupp, qui depuis a revendu sa branche ascenseur à 2 fonds d'investissement, ces quatre géants se sont donc entendus pour se partager des marchés et faire monter les prix dans 4 pays d'Europe, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Ça concernait des ascenseurs, mais aussi des escaliers mécaniques, pour des hôpitaux, des gares et des centres commerciaux.
Et concrètement, comment ça se passait ?
Eh bien, des directeurs de ces sociétés se réunissaient discrètement dans des bars, des restaurants, à la campagne ou à l'étranger, avec à chaque fois des cartes de téléphone prépayées pour rester discrets. Ils se répartissaient le marché avec des quotas arrangés entre eux, et ils établissaient même de fausses offres, trop élevées pour être acceptées, pour faire croire à une véritable concurrence.
Et l'histoire ne s'arrête pas là.
Non, puisque l'Union européenne a également porté plainte contre ces 4 entreprises concernant ses propres ascenseurs qu'elle avait commandés chez ses grands groupes pendant 8 ans et qu'elle aurait donc payé 2 à 3 fois plus cher. Un préjudice estimé par l'Union européenne à 11 millions d'euros. L'affaire est toujours en cours, actuellement devant la Cour de cassation belge.
Et en France, est-ce que ces entreprises ont été poursuivies pour entente illégale ?
Alors non, mais en mars 2008, l'UFC Que Choisir a publié une enquête qui a fait du bruit. Elle a voulu regarder de plus près le résultat d'une campagne de mise aux normes des ascenseurs vétustes lancée par le ministère du Logement. C'est Elisa Houdin qui a signé à l'époque cette enquête.
On avait surtout démarré sur des devis pour voir si les travaux de mise aux normes entraînaient des dérives importantes sur la facture pour les consommateurs. On s'était rendu compte que c'était tout à fait le cas, avec des différences colossales, parfois de 1 à 10, pour un même type d'appareil, à peu près dans le même état. Donc on s'était dit que c'était incroyable qu'il devait y avoir un problème de mise en concurrence pour arriver à avoir des décalages de cette importance-là.
Et pour la journaliste du FC Que Choisir, pour les usagers, à l'arrivée, la facture a été multipliée par 2.
En 2002-2003, la Fédération des ascenseurs avait estimé les travaux à 10 000 euros en moyenne par ascenseur. Et ils avaient livré une enveloppe globale de 3,2 milliards pour l'ensemble du parc résidentiel. Et en fait, selon la dernière enquête qui avait été commandée par le ministère du Logement, 5 ans après, La facture, elle atteignait déjà presque 6 milliards d'euros, hein, donc à peu près le double, et 60% à peu près des ascenseurs pour lesquels on avait plus de 22 000 euros de facture pour la mise aux normes.
La Fédération des ascenseurs, qui représente les quatre principales entreprises du secteur, n'a pas remis en cause ces chiffres à l'époque, tout en contestant qu'il s'agisse d'une dérive.
Mais aujourd'hui, apparemment, il y a encore des questions qui se posent sur le sujet.
En tout cas, selon le trésorier de l'Association des représentants de copropriété, Jean-Claude Geneste, il y a toujours des écarts de prix dans les devis, difficilement compréhensibles.
Nous avons constaté les mêmes interventions sur différents immeubles avec des différences de 30 à 40% sur les prix et sur le coût.
Interrogées sur ce point, les entreprises concernées n'ont pas répondu. Mais la Fédération des ascenseurs nous précise qu'il peut exister des variations de prix liées à l'origine des pièces, aux différentes technologies utilisées, à la logistique ou encore au coût de fabrication.
Et Anaël, face aux responsables politiques, c'est un secteur qui pèse aussi.
Oui, et ça, on le comprend avec cette histoire. Nous sommes en 2013, Cécile Duflot est ministre du Logement et la Fédération des ascenseurs milite alors pour que soit installé sur les vieux ascenseurs un système réduisant l'espace entre le sol et la cage d'ascenseur. Et la Fédération plaide pour que ce soit obligatoire avec un décret du gouvernement. Écoutez Cécile Duflot, aujourd'hui directrice générale d'Oxfam France.
Les ascensoristes y tenaient beaucoup. Parce que c'était plusieurs centaines de millions de chiffre d'affaires, puisque ça devenait obligatoire et donc toutes les copropriétés qui avaient un ascenseur, tous les copropriétaires devaient installer ce mécanisme qui coûtait jusqu'à une dizaine de milliers d'euros. Donc vous multipliez ça par le nombre d'ascenseurs sur le territoire français et vous avez un budget considérable. Dans l'administration, ceux qui étaient en charge de préparer ce décret, les fonctionnaires, ils trouvaient que c'était quand même un peu exagéré, que c'était une demande qui intéressait plus les ascensoristes que la sécurité.
La ministre n'est donc pas convaincue et lorsqu'elle reçoit un représentant de la Fédération des ascenseurs, voilà comment ça se passe.
C'est un grand souvenir dans ma vie parce que c'est une des rares fois où alors que j'étais dans mon bureau de ministre, j'ai été quasiment menacée. Parce que la personne qui était là m'a expliqué que si je ne signais pas ce décret, on expliquerait qu'il y avait des personnes âgées qui risquaient d'être accidentées par ma faute. Clairement, ce qui m'a été dit, c'est un tel sujet sensible médiatiquement que si vous ne le faites pas, en gros, on vous alignera. Donc, il est parti, assez fâché. Je pense qu'il pensait réellement que ça allait être efficace.
Et finalement, la ministre du Logement a choisi de couper la poire en deux en décidant d'obliger uniquement les bâtiments publics et pas les particuliers à adopter ce nouveau dispositif.
Et en l'occurrence, un dispositif qui prévoit l'ajout d'une pièce aux ascenseurs. Et justement, cette question des pièces détachées, elle n'est pas anodine.
Oui, parce que pour faire réparer leur ascenseur, les usagers ont deux solutions. Faire appel à une grande ou à une petite entreprise. Sauf que les petites entreprises, elles ne fabriquent pas de pièces détachées et donc elles doivent les acheter au plus gros. Mais pas au meilleur prix, selon Charles. Il dirige une PME qui fait de la maintenance d'ascenseurs. Nous avons modifié sa voix.
Eux vous vendent des pièces détachées très chères, mais pour eux-mêmes, ils se la vendent pas cher. Je vous prends l'exemple d'un moteur que j'ai dû remplacer. Moi, quand j'ai voulu acheter le moteur, c'était 14 000 euros. Eux le vendaient 4 000 euros. C'est pour empêcher la concurrence. C'est-à-dire, moi, quand je dois remplacer mon moteur face à Kone, je le vends 25 000. Quand eux le vendent, fourni posé, 12 000.
Et ces pièces détachées, elles sont indispensables pour réparer les vieux ascenseurs. Et pour les ascenseurs plus modernes, il y a un autre problème qui se pose. Une forme de verrouillage technologique de la part des leaders du secteur, toujours selon Charles.
Vous avez des ascenseurs, on ne vous donne pas accès à tous les menus. Il faut des clés. Les clés sont données à certains techniciens. Mais vous, en tant que concurrent, vous ne pouvez pas y accéder. Il y a un vrai sujet de blocage technologique, pas sur les vieilles machines, mais sur les nouvelles qui sont installées. C'est un vrai défi pour nous de pouvoir libérer ces technologies. C'est entrave à la concurrence parce que je n'ai pas accès à tous les menus des pages.
Non, et donc pour lui, ça ressemble à de la concurrence déloyale. Et qu'est-ce qu'on répond du côté des sociétés concernées ?
Eh bien, la Fédération des ascenseurs n'a pas répondu précisément à cette question. Elle nous indique que cette logistique des pièces est, je cite, « partagée par l'ensemble des acteurs du secteur à travers des sociétés spécialisées qui les approvisionnent ».
Alors, on va bientôt conclure, mais la question que pose également votre enquête, Anaël, c'est celle du contrôle. Est-ce que ces ascenseurs sont vraiment contrôlés ?
Alors, sur le papier, oui. La loi d'Eurobien de 2003 a rendu obligatoire les contrôles. Toutes les 6 semaines, une société doit observer un technicien sur le terrain et les ascensoristes effectuent en plus leur propre contrôle. Et c'est sur quoi insiste la Fédération des ascenseurs dans un message qu'elle nous a adressé et que nous avons fait lire.
Les ascenseurs sont soumis à une réglementation stricte. Depuis plus de 20 ans, des visites périodiques de maintenance et des contrôles réglementaires obligatoires sont imposés. Les opérations de maintenance garantissent un haut niveau de sécurité et au-delà de la maintenance régulière, tous les 5 ans, un contrôle technique vérifie la conformité des points de sécurité de l'ascenseur définis par la réglementation.
Mais de nombreux techniciens nous ont expliqué que les contrôles qu'ils faisaient eux-mêmes étaient le plus souvent effectués trop rapidement, faute de temps, en général une quinzaine de minutes au lieu d'une heure par ascenseur. À titre d'exemple, l'ascenseur dans lequel est mort le petit Haussmann à Mantes-la-Jolie en 2015.
Oui, on en parlait en début d'émission.
Eh bien, cet ascenseur avait été contrôlé la veille de l'accident. Et l'enquête judiciaire a révélé que le technicien chargé du contrôle s'était contenté, je cite, de regarder les portes. Et face à cette situation, certains députés appellent à changer la loi, comme Daniel Simonet, du groupe écologiste et social.
Ce qui est important, c'est qu'enfin l'État se préoccupe d'organiser un registre national, comme un cadastre, de l'ensemble du parc des ascenseurs. Qu'on ait une connaissance exhaustive de cela. Et finalement, adossé à cela, il faut une agence nationale du service public de l'ascenseur, avec quelque part une espèce de police des ascenseurs, pour que aucun ascenseur en fait n'échappe au contrôle de l'État. Voilà, un peu sur le même modèle que le système de contrôle des véhicules. Donc, il y a pas de raison. Hein. L'ascenseur est un moyen de transport du quotidien, extrêmement important. Donc, il doit être contrôlé, il doit être recensé.
Alors l'été dernier, le député socialiste des Yvelines, Benjamin Lucas, avait rédigé une proposition de résolution pour créer une commission d'enquête sur les ascenseurs. Elle a été interrompue par la dissolution. Il s'apprête à la relancer, espérant débuter ses travaux à l'automne prochain.
Merci Anaëlle Verzeau pour cette enquête que vous pouvez retrouver en longueur sur notre site et sur l'appli Radio France avec les dessins de Nicolas De Witt de la cellule Investigation. Et si vous voulez nous transmettre des informations de manière sécurisée, vous pouvez nous envoyer un message à l'adresse suivante alerte.radiofrance.fr. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Raphaël Canezan et réalisée par Christophe Imbert. À la programmation musicale, il y avait Jean-Baptiste Audibert et à la technique, Philippe Duclos. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve samedi prochain.